on va parler aujourd'hui de la joie transcendante, la joie qui est au-dessus de tout. Puis je vais vous inviter pour ça à tourner dans Philippiens au chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Exceptionnellement aujourd'hui, il y a des chances que mon message dure un peu plus longtemps que 45 minutes. Mais de toute façon, on a gagné une heure cette nuit, donc on va l'utiliser là. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le rendre. Je le fais. Si je décide d'aller plus que 45 minutes, c'est un choix intentionnel de ma part, parce que je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais couper, parce que je trouvais ça important de le dire. Donc, ce n'est pas une coutume, mais j'aime mieux vous prévenir que vous allez peut-être reperdre l'heure que vous avez gagnée. Donc, on va lire notre texte dans Philippiens 1. Pour se mettre un peu dans le contexte, on va commencer à partir du chapitre 12, du verset 12, puis on va lire jusqu'au verset 21. Donc, la parole de Dieu se lit comme ça, Philippiens 1, chapitre 12. « Or, frères, je veux que vous le sachiez. Les circonstances que je traverse sont plutôt arrivées pour l'avancement de l'Évangile. Il est ainsi devenu évident, dans tout le prétoire et partout ailleurs, que je suis prisonnier pour Christ. Et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par mes liens, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer la parole sans crainte. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par jalousie et dans un esprit de rivalité, mais d'autres aussi le font de bonne volonté. Ceux-ci, par amour, ils savent que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Ceux-là, c'est par esprit de parti qu'ils annoncent le Christ, non pas en pureté, pensant rendre ma captivité encore plus pénible. Mais quoi? De toute manière, soit comme prétexte, soit en vérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. J'aurai encore sujet de me réjouir, car je sais que cela tournera pour moi à salut grâce à vos supplications et au secours de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma vive attente et mon espérance que je ne serai confus en rien, mais qu'avec toute hardiesse, maintenant encore comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. » À propos de quoi ce passage-là qui est écrit par la plume de l'apôtre Paul, il est à propos de quoi? On voit, comme vous avez pu le remarquer, on voit de l'assurance, on voit de la conviction, on voit de la passion, puis on voit aussi de la joie. De la joie, mais pas n'importe quelle sorte de joie. Ce texte-là a beaucoup à nous dire sur la vraie joie, sur le vrai bonheur. Pas n'importe quelle sorte de bonheur. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas seulement ce texte-là qui nous parle de la joie, c'est un sujet que Dieu adresse dans toute la Bible, de la Genèse, ou que ce soit au moment où que l'homme chute et perd la joie du Seigneur, jusque dans l'Apocalypse où qu'on voit que le peuple de Dieu va se réjouir pour l'éternité. Le sujet de la joie et du bonheur est un sujet qui traverse absolument toute la Bible. Mais ce n'est pas seulement dans la parole de Dieu qu'on en entend parler, la joie, puis tous ses synonymes, que ce soit satisfaction personnelle ou bonheur ou peu importe. Se trouve littéralement, puis absolument partout dans le monde. Que ce soit à la télé, à la radio, dans les films, dans les conférences, dans le journal. Puis même que je suis persuadé de ne pas trop me tromper si j'affirme que la section épanouissement personnel, qui est une autre façon de dire recherche de la joie, c'est peut-être même la section la plus remplie dans une quelconque librairie, que ce soit en ligne ou que ce soit physique. Tout le monde en parle, mais même si le sujet est dans beaucoup de conversations, il me semble évident qu'il n'y a personne qui l'a, pas beaucoup de monde, je veux dire, qui l'a réellement trouvé, cette joie-là. C'est une ressource si rare que sa valeur marchande, on pourrait dire, est ridiculement élevée. Même les plus riches ne semblent pas être capables de pouvoir l'acheter avec l'abondance de leur richesse. Et ceux qui même disent des fois l'avoir trouvé, je vous dis, enlevez-leur tout ce qu'ils possèdent, argent, famille, sécurité, santé, et vous allez voir si elle manifeste vraiment encore cette joie-là qu'ils disent avoir. Alors, il y a quelque chose d'assez évident dans ce monde-là, s'il y a quelque chose d'évident, c'est que ce monde-là ne connaît ni ne possède la vraie joie. Cette joie-là qui, malgré toutes circonstances, va demeurer. Cette joie-là qui, malgré la mort, va pas tomber dans le désespoir. Cette joie-là qui, pour l'éternité, va exister, qui dure éternellement. Mais s'il n'y a vraiment rien d'étonnant avec de voir une humanité qui rejette Dieu puis son Christ recherché comme des assoiffés sans pouvoir le trouver, la satisfaction de leur âme, la joie de leur âme, celle-là, par exemple, de voir le peuple de Dieu manquer de joie. Je veux dire, les gens qui rejettent la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, l'autorité de Dieu puis l'amour de Dieu, peuvent-ils vraiment penser qu'ils vont trouver la joie de Dieu? Mais pour le peuple de Dieu qui a été réconcilié avec Dieu, pourquoi que si souvent on n'a pas cette joie-là qu'on devrait avoir? Si c'est triste de voir ce monde-là être triste, combien ça l'est plus de voir ceux qui sont supposés être les enfants en 1 Timothée 1:11 du Dieu bienheureux, comme ça qui est appelé, du Dieu bienheureux. La joie du peuple de Dieu, frères et sœurs, c'est une priorité. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, ce n'est pas quelque chose qu'on essaye d'avoir, qu'on cherche à avoir si on a du temps. C'est une priorité pour chacun d'entre nous. Ta joie, puis la joie de ton frère. Que ça sangle dans nos cœurs, bien-aimés de Dieu. La joie dans notre marche chrétienne doit être une priorité parce que Dieu nous a sauvés pas pour être tristes. Dieu nous a sauvés pas pour être dans le désespoir. Dieu a donné son Fils pour qu'on se réjouisse, pour qu'on goûte à une joie qui est au-dessus de toute chose. Mais alors que je dis ça, j'ai une phrase qui me revient tout le temps en tête quand je parle de sentiment chrétien. C'est quelque chose de cette forme-là. La vie chrétienne, attention Vincent, la vie chrétienne, ce n'est pas des émotions. Ce n'est pas à propos des émotions. Où tu trouves ça dans la Bible? Où tu trouves ça que la vie chrétienne, ce n'est pas à propos des émotions? Ce n'est pas dans la Bible, en tout cas. Parce que, au lieu d'être des expériences, la vie chrétienne, regardez ce que Dieu dit. Pas au lieu d'être des expériences, mais d'être juste une vie sans expérience, Dieu, il commande des émotions. C'est écrit dans Deutéronome 28, 20, 47, « Parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. » Qu'est-ce que Dieu reproche à son peuple? De l'avoir... Son peuple le servait, mais pas avec joie et de bon cœur. Jean Calvin, en commentant ce verset-là, va dire « Dieu nous menace de choses terribles si nous ne sommes pas heureux. » Incroyable. Dieu a donc élevé les sentiments du cœur au niveau du précepte. C'est un commandement, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Il leur donne la joie. Puis moi, quand je pense à ça, je trouve ça incroyable. Dieu nous commande d'avoir certaines émotions. Il nous commande de l'aimer. Pas juste de servir, mais de l'aimer, d'être passionné, d'être se réjouir en lui. Puis la raison pour laquelle il leur donne la joie, c'est parce qu'il désire et veut nous voir joyeux, frères et sœurs. Parce qu'il nous aime, mais aussi parce que combien Dieu est plus glorifié par un peuple qui a une profonde et authentique joie envers lui, plutôt qu'un peuple qui lui offre un service automatique, froid puis dénudé de tout plaisir. C'est lui, en plus, qui rend possible cette quête-là du vrai bonheur parce qu'il a ultimement envoyé son Fils Jésus dans le monde pour nous sauver de nos péchés, de notre condamnation puis de nos ténèbres, afin qu'en lui faisant confiance, pas en marchant d'une façon parfaite, mais en lui faisant confiance, on puisse goûter à la joie d'être puis d'appartenir au Seigneur puis d'avoir été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais si on veut être honnête, puis si moi aussi je veux être honnête, on n'est pas toujours en train d'expérimenter cette sorte de joie-là. Cette joie-là que le Seigneur nous commande. Même à la lumière merveilleuse de notre salut. Même des fois, c'est une source de condamnation plus grande. Parce qu'on est dans notre cœur, notre conscience, parce qu'on fait « J'ai été sauvé, je devrais encore plus me réjouir, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc, je suis vraiment un crétin ou je suis vraiment un misérable. » Non, vraiment pas. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pourquoi on n'expérimente pas la joie. Ça peut être la négligence des moyens de grâce que Dieu donne. Ça peut être le péché directement. On n'a pas le temps d'étudier ça, puis ce n'est pas le sujet du texte qu'on vient de lire, en fait. Mais le texte d'aujourd'hui, on a quand même beaucoup à dire sur le sujet de la joie. En fait, je trouve qu'il en dit même ce qui est le plus important, ce qui est le plus essentiel pour vraiment comment être heureux. Ou c'est quoi la joie chrétienne? Puis c'est pour ça que je suis heureux de le prêcher ce matin. On y voit un apôtre, comme vous avez pu le voir, dans une situation extrêmement difficile, mais qui même dans cette situation-là difficile, une circonstance difficile, il nous manifeste puis il écrit qu'il y a quand même une joie qui est au-dessus de tout ça. Une joie qui est transcendante, c'est le titre de mon message. Transcendant, ça veut littéralement dire élevé, plus haut que. Donc c'est une joie qui est plus haut que toute circonstance. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Puis Paul la manifeste. Une joie qui transcende toute chose, une joie que rien ni personne ne peut atteindre. Puis Paul la manifeste, cette joie-là. Puis si, comme moi, vous désirez cette joie-là, puis je suis sûr que vous la désirez, je vous invite avec moi à méditer les paroles de Paul dans 1 Philippiens 18-21, qui n'est pas les paroles d'un homme, même si c'est Paul qui les a écrites, mais qui est les paroles que Dieu nous adresse à nous aussi en 2019. On va... Avant de le relire, je vais vous présenter un peu comment je vais aller dans mon message. On va d'abord remettre une petite mise en contexte du texte pour savoir de quoi ça parle, d'où qu'on est dans l'Épître aux Philippiens. Mais à la suite de ça, on va voir la joie transcendante de Paul. On va voir qu'elle découlait. Donc, cette joie-là découlait de quelque chose qui était une passion transcendante. Donc, une passion qui était plus grande que n'importe quoi d'autre dans sa vie. Et que cette passion-là était elle-même appuyée sur une certitude ou une assurance transcendante. Donc, Paul exprimait ou ressentait une joie qui était au-dessus de tout parce que sa passion, il était sûr que sa passion qui était au-dessus de tout allait être assouvie. Et c'est pour ça qu'il pouvait toujours être joyeux. Mais on va voir ça aujourd'hui. Donc, mise en contexte, verset 18, on lit « Mais quoi, de toute manière, soit comme prétexte, soit en vérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. J'aurai encore sujet de me réjouir. » Un peu plus tôt, on l'a lu tantôt, verset 12, Paul introduit comme une nouvelle section à sa lettre. Il commence à parler, au début, il parlait des Philippiens, puis à partir du verset 12, il commence à parler de sa propre situation difficile à lui. On sait que Paul était présentement, quand il écrit cette lettre-là, en prison à Rome, probablement. Parce qu'il avait été faussement accusé par les Juifs, pas pour quelque chose de mal qu'il avait fait, mais juste parce qu'il annonçait l'Évangile. Il était faussement accusé par les Juifs, puis s'était ramassé en prison. Puis il attendait maintenant son procès devant César, qui allait fort probablement, peut-être, se résoudre par sa propre mort. C'est une forte chance. Puis il est confiné dans une maison louée qui fait office de prison. C'est ça, c'est pas une prison avec plein de cachots, mais c'est une maison louée. Mais il était quand même attaché par un gardien avec une corde de 40, une chaîne de 46 cm environ, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui avait un garde à côté de lui. Puis comme si ce n'était pas suffisant pour l'éprouver, on voit verset 15-18 que certains prédicateurs, des faux prédicateurs avec des mauvais motifs, vu qu'il est en prison, il profitait de l'occasion pour lui faire du tort aussi, lui, puis peut-être baisser même son image aux yeux des autres, puis juste rajouter de la souffrance. Enfin, t'es en prison, Paul, nous, au nom de Christ, on va te faire mal. On va utiliser le nom de Christ pour te faire mal. Donc, c'est ça, le topo, c'est ça que ça ressemblait à la vie de Paul, au moment d'écrire cette lettre-là. Il recevait des tribulations de la part des Juifs, de la part des païens, puis même de la part de certaines personnes qui s'identifiaient à l'Église, au christianisme. Sur tous les fronts, Paul était persécuté. C'est assez, à mon sens, pour jeter quelqu'un à terre, pour le faire désespérer, en tout cas. Mais ce qui est surprenant dans tout ça, c'est qu'on ne voit pas un Paul emporté par l'angoisse et le désespoir, on ne voit pas un Paul amer, centré sur ses difficultés, on ne voit même pas un Paul qui se plaint de sa situation. Ce n'est même pas ça que Paul est en train de faire, bien au contraire. Écoutez bien, frères et sœurs, il écrit à la fin du verset 18, « Je m'en réjouis. » Je m'en réjouis. Au milieu de cette tempête-là terrible, de souffrance qu'il traverse, l'apôtre, il n'est pas noyé par les vagues de la difficulté. Il traverse certainement une tempête, mais il n'est pas noyé par les vagues de la difficulté, de l'amertume, de la dépression. Il n'est pas noyé par ça. Au contraire, il semble qu'il marche sur ces eaux-là, à l'image de Pierre, avec une joie transcendante et triomphante. Sans que ces vagues-là, même s'ils sont là, ils puissent le faire caler. Il marche, il est dans le milieu de la tempête, les vagues le touchent, mais ils ne le font jamais caler. Lui, il marche sur ces eaux-là troubles. Puis je trouve ça extraordinairement merveilleux, puis c'est ça que je veux pour ma propre vie. La joie de Paul est indestructible, et c'est ça que je veux pour ma propre vie. Il n'y a aucune personne, ni aucune situation, aussi difficile soit-elle, qui pouvait éteindre le feu du bonheur qui brûlait dans son cœur. Puis cette joie-là était si dominante dans son cœur qu'en réalité, là, si Paul... il n'écrirait pas ses difficultés, puis qu'on arrête toute la lettre aux Philippiens sans cette section-là sur ses propres difficultés, on ne pourrait même pas s'en rendre compte une seconde qu'il était dans la souffrance. Enlève le fait que lui, il écrit que « bon, je suis en prison », tu ne pourrais même pas en douter une seconde, tellement que la joie découle de cette épître-là aux Philippiens. La joie, c'est juste un thème dominant dans cette épître-là, puis même, on retrouve les mots « joie » et « réjouir » plus que partout ailleurs dans le Nouveau Testament, réunis ensemble. Il y en a plus dans cette épître-là. C'est pour ça qu'elle est appelée souvent l'épître de la joie. Comme si c'était une douce mélodie qui jouait, une douce mélodie de bonheur, qui joue en background, qui joue en arrière pendant que tu lis cette lettre-là. C'est joie, 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 joie. Puis ça démontre, à mon sens, avec évidence, que les chrétiens devraient être un peuple qui se réjouit. Les chrétiens devraient être un peuple qui se réjouit. Lorsque quelqu'un regarde un chrétien ou un groupe de chrétiens, il devrait, normalement, y apercevoir la vraie joie. Puis attention, je prends le temps de mentionner la vraie joie, pas n'importe quelle sorte de joie. Nous devrions être un peuple qui se fait connaître, oui, à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres, mais aussi à cause qu'on possède une joie que ce monde-là ne connaît pas. Une joie que quand ce monde-là passe au travers des difficultés, il perd cette joie-là. On devrait avoir cette joie-là, puis le monde devrait le voir. Martin Lloyd-Jones, qui écrit dans son classique sur la dépression spirituelle, il croyait sincèrement que la joie chrétienne était l'un des plus puissants facteurs dans l'expansion du christianisme au premier siècle, qu'on lit dans les Actes et tout ça. Puis on voit même que quand ils se faisaient persécuter, ils sortaient de prison, puis ils priaient, ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir les mêmes souffrances que Christ. Et combien que Martin Lloyd-Jones avait raison d'écrire ça. Le vrai christianisme n'avance pas avec les armes, ni avec la violence, ni avec des techniques d'entrepreneuriat ou avec des recherches sociologiques. Il avance lorsque son message, qui est centré sur la personne de Christ, est annoncé puis qui est annoncé dans la joie et qu'il produit la joie. C'est comme ça que le christianisme avance. Frères et sœurs, si on n'est pas satisfait en Dieu, lorsqu'on proclame puis annonce l'Évangile, pourquoi les gens nous croiraient? Pourquoi les gens même tendrait l'oreille à notre message? Le puritain Samuel Ward a écrit « Montre-moi ta foi par ta joie. Si tu dis que tu as la foi et vis une vie de tristesse, je ne te croirai pas. » Mettez-vous à la place des incroyants qui nous écoutent. On est là en train de leur dire que le seul vrai Dieu qui nous a créés, celui qui nous garde en vie à chaque microseconde, lui qui tient notre cœur en ce moment, est dans une énorme et sainte et juste colère contre chaque être humain à cause de leur péché. On leur dit qu'à cause que tout le monde est pécheur, que tout le monde a un mauvais cœur, parce que tout le monde est incrédule, égoïste, adultère, menteur, parce qu'on aime le plaisir, le faux plaisir plus que Dieu, parce qu'on pense être juste devant lui, ou qu'on essaie de se rendre juste par une quelconque religiosité ou une quelconque spiritualité, ou par nos œuvres. Il dit qu'à cause de tous ces péchés-là, puis bien d'autres, on va être jugé coupable devant le juste juge et qu'on va être jeté en enfer dans l'étang de feu, étant tourmenté par la honte et la souffrance pour l'éternité. Ça, c'est ce qu'on leur dit. Mais on leur dit pas juste ça. On arrive, puis on n'arrête pas là. On leur annonce aussi la merveilleuse et glorieuse nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. On leur dit que ce Dieu-là, qui est en colère contre eux, dans son amour incomparable, a pourvu une solution afin que ces hommes-là puissent être sauvés de sa colère en demeurant lui-même juste. Donc, il ne se rend pas injuste pour les sauver. On peut baisser ça. Il a pourvu un moyen, puis ce moyen-là, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, prendre une chair comme la nôtre, vivre une vie que nous, on ne voulait pas et ne pouvait vivre, qui est une vie parfaitement pieuse, soumise à la loi de Dieu, soumise au Père. Et ce Fils-là, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a donné sa vie précieuse, la plus précieuse des vies, pour mourir pour des pécheurs coupables. Il a offert un sacrifice sur cette croix-là. La punition qu'on devait avoir, c'est lui qui l'a pris. Il est mort à notre place et le Père a montré qu'il acceptait son sacrifice parce que 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts avec victoire et puissance. On leur dit ça, qu'à cause de Christ, leur péché peut être pardonné et le Dieu juste peut eux-mêmes les déclarer justes, les couvrir du manteau de justice de Christ, si seulement ils croient, si seulement ils se repentent de leur péché. On leur dit qu'ils vont pouvoir goûter au délice éternel et à la joie incomparable qui est devant la face de Dieu. On leur dit qu'ils vont pouvoir devenir enfants de Dieu et que Dieu, comme Kevin nous le dit, vont pouvoir être leur bon berger. On ajoute, comme si ce ne serait pas assez, que quand ils se repentent et qu'ils croient, quand ils vont mourir et rencontrer Dieu, ils ne vont pas entendre « serviteur méchant et paresseux, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Mais ils vont plutôt entendre « c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mettez-vous à leur place, ou à la place de celui qui va entendre ce message-là de quelqu'un qui exprime absolument aucune joie qui est différente ou supérieure à ce que lui a déjà vu dans le monde. Est-ce que ça fait du sens? Ça ne fait aucun sens. Et les non-croyants peuvent s'en rendre compte. Je peux témoigner, frères et sœurs, que la soirée où que Dieu m'a sauvé, la soirée où que Dieu a ouvert mes yeux pour que je voie la grâce de sa gloire, ou la gloire de sa grâce, c'était chez un groupe de jeunes, chez Tony Bissonnette, puis ce qui m'a ouvert, par quoi il m'a ouvert mes yeux sur ma condition, c'est quand que je voyais, puis François, il était là, puis Pierre aussi était là, Kevin aussi, puis toute la famille Bissonnette. Quand je voyais eux leur joie, dans la sainteté, dans la simplicité, ça a été comme, Dieu s'en est servi comme un soleil pour montrer toutes les tâches de ma tristesse puis de ma détresse dans ma vie. Avant ça, je le savais, mais quand j'ai vu leur soleil de joie briller, c'est ça que Dieu s'est servi pour moi, m'amener à la foi. Puis je suis sorti de là avec le début de la même joie qui commençait dans mon cœur. Alors même dans les circonstances sombres que Paul expérimentait, sa joie brillait de mille feux. Il avait une joie triomphante qui surpassait absolument toute souffrance. Puis comment la posséder? On va le voir bientôt, mais juste avant, j'aimerais qu'on voit dans notre texte une caractéristique de cette joie-là qui la rend encore plus désirable, qui la rend encore plus époustouflante. On lit au verset 18, il dit « Je m'en réjouis ». Et dans le grec, c'est la même phrase. Là, nous, on a mis un point pour mieux comprendre. Mais il dit « Je m'en réjouis, j'aurai encore sujet de me réjouir ». Mais littéralement, il dit « Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore ». Donc, je m'en réjouis là, puis je vais m'en réjouir dans le futur. Paul ne dit pas « Je m'en réjouis et j'espère m'en réjouir plus tard ». Il dit « Je m'en réjouis et je me réjouirai ». Il affirme plutôt avec certitude qu'il est sûr à ce moment-là de sa vie, même dans la prison, même devant les persécutions, il dit « En ce moment, je suis joyeux, puis guess what, je vais être joyeux pour toujours. Je vais être joyeux encore dans le futur. » En d'autres mots, c'est comme si il dit « Malgré la souffrance, malgré la tristesse et l'angoisse quotidienne », parce que la vraie joie, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas non plus d'autres sortes d'émotions comme la tristesse et des fois le découragement. C'est un sentiment qui se met plus haut que ça, on va voir ça plus tard. Mais malgré la souffrance présente, malgré la tristesse et l'angoisse quotidienne, Paul il dit « Je suis plein de joie et malgré tout ce qui pourrait se passer dans le futur, malgré même une sentence de mort injuste, je vous assure, Église de Philippe, je vais demeurer joyeux. » Wow! Paul n'était pas joyeux seulement quand tout allait bien, quand il avait assez d'argent pour ses besoins, lorsque les gens autour de lui l'aimaient, lorsqu'il n'était pas malade, lorsqu'il ne souffrait pas, lorsque tout semblait aller pour le mieux. Pas du tout. Sa joie, à lui, ne dépendait pas des circonstances. Elle transcendait les circonstances. Elle était au-dessus des circonstances. Puis c'est la seule raison pour laquelle il peut dire avec autant de conviction qu'il va se réjouir encore, peu importe ce qui va se passer. C'est à cause qu'il sait que sa joie est au-dessus de ce qui va se passer, peu importe qu'est-ce que c'est. Et vraiment, frères et sœurs, c'est la sorte de joie que moi, je veux désirer. Je ne veux pas une joie qui va être soumise aux circonstances, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'un jour m'attend. J'ai une joie qui, je sais, va être au-dessus de ce qui m'attend. Bien trop souvent, on se laisse malmener puis chavirer le bateau de nos cœurs par les vagues des circonstances. Quand je suis en santé, je suis heureux. Mais quand je suis malade, je suis malheureux. Quand je n'ai pas de problème monétaire, je suis heureux. Mais quand les fins de mois sont serrées, je suis malheureux. Quand j'aurai ma maison, je serai heureux. Mais si je ne l'ai pas, je suis malheureux. Quand je vais me marier, je vais être heureux. Mais si je ne suis pas marié, je suis malheureux. Si les gens m'aiment et m'aident, je vais être heureux. Mais si les gens me rejettent et me nuisent, je vais être malheureux. Quand je domine facilement toute tentation, je vais être heureux. Mais s'il y a beaucoup de tentations et que le combat est féroce, je vais être malheureux. En d'autres mots, si les circonstances vont bien, je vais être heureux. Puis si les circonstances vont moins bien ou mal, je vais être malheureux. Cette sorte de joie-là est inconstante. Elle n'est pas au-dessus de tout. Elle est appuyée sur des circonstances terrestres. C'est donc une joie purement terrestre qu'on peut expérimenter. Cette joie-là, on peut toute l'expérimenter, même en tant que chrétien. C'est pas mal de se réjouir quand ça nous fait du bien, puis de trouver ça plus difficile quand ça va moins bien. Mais la joie que Paul a est même au-dessus de cette joie-là terrestre. C'est une joie céleste, et c'est cette joie-là qu'on désire avoir. On veut pas une joie comme le monde. Parce que ce qui est terrestre change constamment, donc on n'a aucun appui solide pour baser notre joie là-dessus. Et trop souvent, ça semble être le cas pour nous. Mes chers frères et sœurs, Dieu veut nous voir expérimenter, ressentir et manifester cette joie-là triomphante et constante qu'avait l'apôtre Paul. Une joie présente qui peut s'écrier avec assurance « Je me réjouis, je me réjouirai aussi demain, le mois prochain, dans un an, dans 20 ans, dans 25 ans, puis essayez juste pour voir de me l'enlever. » Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas me retirer cette joie-là. Vous pouvez me tuer, vous pouvez me décapiter, je ne vais pas perdre cette joie-là. Quand que je pleure, je ne perds pas cette joie-là. Quand je perds tout le monde et que je suis dans une grande détresse, je ne perds pas cette joie-là. Cette joie-là demeure malgré mes émotions, mes sentiments, malgré peu importe quoi, cette joie-là demeure. Voici la joie que Paul veut communiquer à ses chers frères et sœurs de l'Église de Philippe, puis c'est la joie que le Saint-Esprit veut nous communiquer à nous aussi, qui sommes à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. Une joie triomphante, une joie constante, une joie transcendante. C'est pour ça qu'il faut bien écouter ce que Paul va écrire au verset 19 à 21, parce que ça l'explique justement de quoi découle cette grande joie-là. Parce que la joie, tu ne peux pas la produire dans ton cœur. C'est ça qui est étonnant avec les commandements que Dieu donne. Il dit « Réjouis-toi, aime-moi, mais tu ne peux ni produire l'amour ni la joie. » Ou il va dire « Prends en horreur le péché. » Comment tu peux produire la haine dans toi ou des choses comme ça? Ce n'est pas des choses que tu peux faire. Ça vient de Dieu. On le voit en fait dans Galates, que la joie, l'amour, la paix, c'est tout le fruit de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, c'est quelque chose que Dieu produit. Mais elle découle de quelque chose, puis ce quelque chose-là, on peut se battre férocement pour l'avoir dans notre vie. Regardez ce qui est écrit au verset 19. C'est écrit « car ». Verset 19, je suis un petit peu trop loin. Christ est annoncé « Je m'en réjouis, j'aurai encore sujet de me réjouir, car ». Puis « car », comme je l'ai souvent dit, fait un lien avec ce qu'il vient juste d'écrire et ce qu'il va écrire. Dans le fond, il est en train de dire que ce qu'il va écrire, c'est la raison qui soutient ce qu'il venait juste d'écrire. Donc, ce qu'il va écrire, c'est la raison pourquoi il peut dire « je me réjouirai, car », et il explique pourquoi. Continuons de lire. « J'aurai encore sujet de me réjouir, car je sais que cela tournera pour moi à salut, grâce à vos supplications et au secours de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma vive attente et mon espérance, que je ne serai confus en rien. » Ce qu'on remarque ici, c'est que la joie de Paul est appuyée sur une assurance que quelque chose va arriver certainement. Il sait que quelque chose va arriver. Mais avant d'approfondir ce point-là, on aurait pu le faire tout de suite, je vous propose d'aller approfondir le verset 20 avant. Puis la raison, c'est parce qu'au verset 20, on voit l'apôtre Paul avoir une passion dans sa vie, mais toute une passion. Puis c'est justement l'assurance que cette passion-là, il va l'avoir, il va l'assouvir, il va se satisfaire dedans, qui lui cause autant de joie. Fait que je veux qu'on aille voir la passion. Puis ensuite de ça, on va rapidement venir voir comment il fait pour avoir l'assurance de cette passion-là qui lui procure de la joie. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est une joie transcendante découle d'une passion transcendante, et c'est au verset 20. C'est quoi cette passion-là? On va lire. Verset 20, 21, et « Selon ma vive attente et mon espérance que je ne serai confus en rien, mais qu'avec toute hardiesse maintenant, encore comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, ou magnifié dans mon corps, littéralement. » Soit par la vie, soit par la mort, car pour moi, vivre, c'est Christ et mourir un gain. C'est quoi la plus grande passion qui animait le cœur de l'apôtre Paul? C'est que Christ soit toujours hardiment glorifié dans son corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot glorifié, ça veut littéralement dire magnifié. Puis magnifier quelque chose, j'ai jamais entendu, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre mieux l'expliquer que John Piper. Donc, je ne vais pas vous citer qu'est-ce qu'il dit, mais je vais vous redonner la même image. Il dit qu'il y a deux façons de magnifier Dieu. Puis les deux façons, il dit, c'est soit à la manière d'un microscope ou soit à la manière d'un télescope. Le microscope, en fait, magnifier, ça veut dire faire paraître comme grand. C'est ça que ça veut dire, faire paraître comme grand. Le microscope, il magnifie les microbes, par exemple, parce que c'est quelque chose de tellement petit que tu prends un microscope, puis là, tu le vois plus grand qu'il l'est en réalité. Tu le fais paraître plus grand. Mais il y a une autre façon aussi de magnifier, c'est la façon télescope. Ça, c'est pas que tu fais grossir quelque chose plus qu'il l'est vraiment. C'est que c'est tellement loin que ton œil est tellement capable de le voir que tu prends quelque chose pour le voir un peu plus comme qu'il l'est en réalité. Donc, la planète, tu la vois comme un petit point. Quand tu prends un télescope, tu la vois comme ça. Mais pour de vrai, elle est infiniment plus grosse que ça. Donc, tu magnifies la Lune pour la voir comme qu'elle l'est, plus comme qu'elle l'est vraiment. Que ce soit Paul ici dans l'Épître aux Philippiens ou que ce soit David dans le psaume 69-30, quand il dit qu'ils veulent magnifier Dieu, ils ne veulent pas dire qu'ils veulent le faire paraître plus grand qu'il l'est vraiment. Ils ne veulent pas dire que oh, Dieu a besoin d'être glorifié, Dieu a besoin, Dieu manque de gloire. On va se forcer, gang, pour essayer de le faire paraître un peu plus grand, là. Le faire paraître un peu plus glorieux, c'est à la manière d'un microscope. Ce n'est pas comme ça que Paul s'exprime. En fait, ils veulent le faire paraître pas plus grand. Ils veulent montrer comment qu'il est vraiment grand. Ils veulent que leur vie soit des télescopes, que quand les gens les voient eux, ils voient quelque chose de la grandeur du Dieu qu'ils ne voient pas sinon. Ils veulent être des télescopes sur cette terre-là pour que les gens puissent voir le Dieu dans lequel Paul prend si plaisir. Dans le fond, il veut que sa vie puis sa mort manifestent quelque chose qu'il va écrire plus loin. « Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. » Il trouvait une si grande joie en Dieu, une si grande joie en Christ, qu'il veut que sa vie soit quelque chose pour que les gens puissent le voir, parce qu'ils ne le voient pas. Pour lui, absolument tout était à propos de Jésus. Jésus-Christ, 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 c'est ça la passion ultime qui absorbait Paul jour et nuit, dans la commodité autant que dans l'adversité. Pour lui, toute sa vie, sa mort et sa vie est à propos de Christ. C'est tellement incroyable parce que il voulait absolument juste une chose. Il voulait d'autres choses, mais ultimement, juste une chose, c'était de voir son Sauveur être magnifié. C'est de voir, d'avoir plus de Christ dans sa vie, de magnifier plus Christ dans sa vie. Puis il voulait le faire, c'est écrit dans notre texte, avec toute hardiesse. Le mot hardiesse veut littéralement dire discours sans réserve ou de ne pas retenir, de dire quelque chose franchement. C'est ça que ça veut dire. Puis l'idée que Paul communique par ça, c'est qu'il veut assouvir sa passion de voir Christ élevé sans retenue. Il ne veut pas qu'il n'y ait rien qui entrave. Il veut l'assouvir au complet. C'est ça ma passion, mon unique passion. Tassez-vous de là, je ne veux rien qui entrave ça. Sans retenue, je vais assouvir ma passion. Frères et sœurs, est-ce qu'on possède la même passion que Paul? Il ne faut pas se demander plus longtemps pourquoi notre cœur ne transpire pas souvent la même joie transcendante que celle de Paul. Si on ne cultive pas cette passion-là, frères et sœurs, la joie va rester loin de nous. Parce que la joie est le produit de cette passion-là qui est satisfaite. Quand un cœur qui veut voir Christ élevé plus que tout, voit Christ élevé plus que tout, c'est là qu'il expérimente la satisfaction et la joie. Parce que tu ne peux pas produire la joie dans ton cœur, c'est le fruit de l'esprit. Mais tu peux combattre férocement dans ta vie pour tasser absolument tout qui fait entrave ou qui cherche à prendre la place de cette passion-là que tu as eue quand tu es né de nouveau. Parce que oui, quand tu as eu un nouveau cœur, tu l'as eu cette passion-là et tu l'as encore. Peut-être qu'il est enterré par bien des mauvaises herbes parce qu'on a laissé des choses dans notre vie, mais est encore là si tu appartiens à Christ. Puis il faut que tu travailles fort avec l'Esprit de Dieu dans la grâce, dans l'Évangile, pas par la loi, dans l'Évangile. Par le pardon, par le fait qu'il n'y a plus de condamnation, tu vas à Christ, mais t'enlèves les mauvaises herbes qui étouffent cette passion-là pour Christ. Notre capacité pour la joie, c'est toujours étroitement lié avec nos passions. Plus grande est ta passion, plus grande va être ta joie. Si tu aimes juste un peu le hockey, qu'ils perdent, ça ne fait rien. Mais si tu aimes vraiment et tu es passionné du hockey, quand ils perdent, ça te fait quasiment mal. Plus ta passion est grande, plus ta joie va être reliée avec ta passion. Puis je vous dis qu'il n'y a pas de plus grande passion que celle de vouloir voir Dieu être glorifié ou magnifié. C'est pour ça que j'ai dit que Paul avait une passion transcendante au-dessus de tout. Si tu veux avoir une joie qui surpasse toute chose, tu dois avoir une passion qui surpasse toute chose. Est-ce qu'on a cette passion-là, frère et sœur? Est-ce qu'on doit se repentir d'avoir laissé nos cœurs se perdre dans des passions terrestres aussi insignifiantes quand on les compare à la gloire de Dieu? Moi, j'ai souvent à me repentir de ça. Chaque jour, j'ai à me repentir de ça. Quasiment à chaque heure, il faut que je me repente de laisser des choses prendre la place de la passion pour Christ. Peut-être qu'on a besoin aujourd'hui d'aller sur nos genoux puis d'invoquer notre Dieu plutôt que de faire autre chose pour qu'il dirige nos yeux sur lui puis qu'il absorbe nos âmes par sa beauté. Il me semble que si souvent on court après un concept de joie vague, c'est comme si les chrétiens des fois disent « j'ai pas la joie », mais la sorte de joie qu'il veut, c'est comme un peu vague, c'est comme juste « j'aimerais ça juste me sentir joyeux sans but, sans rien ». La joie chrétienne, c'est quand notre passion pour Christ est assouvie. C'est quand la passion de notre nouveau cœur est assouvie. Donc, si tu veux courir après la joie, cours après une passion pour Christ. Pas juste avec un sentiment vague de joie. Cependant, la passion elle-même ne peut pas apporter la joie transcendante. Tu peux être passionné de quelque chose, mais si tu ne l'as pas, tu ne vas pas te réjouir. Donc, ce n'est pas juste d'avoir une passion qui te donne automatiquement de la joie. Il faut que cette passion-là soit assouvie constamment. Ça me mène à mon troisième point, puis mon dernier point, c'est que Paul avait une joie transcendante qui découlait d'une passion transcendante parce qu'elle-même, cette passion-là, est appuyée sur une assurance transcendante. Une assurance qui était plus sûre que n'importe quoi d'autre. On va lire verset 19-20. Une assurance transcendante. « J'aurai encore sujet de me réjouir, car je sais que cela tournera pour moi à salut grâce à vos supplications et au secours de l'Esprit de Jésus-Christ. » Selon ma vive attente et mon espérance que je ne serai confus en rien. » On a déjà vu par le mot « corps » que Paul donne la raison de sa joie. Comment donc Paul pouvait avoir de la joie, même dans cette circonstance-là? Il dit « car je sais que cela tournera pour moi à salut. » Paul n'écrit pas « car j'espère que ça va tourner à salut », il écrit « car je sais ». Le mot « savoir », ben, qui traduit « c'est », veut littéralement dire, c'est pas juste « ah, je sais », non, c'est « t'es absolument sûr ». T'es absolument certain, c'est une certitude. La joie de Paul s'appuie donc sur une grande conviction, puis cette conviction-là, c'est écrit, « car je sais que cela tournera pour moi à salut. » Mais c'est quoi cela? Cela fait référence à son emprisonnement, puis aux tribulations venant des prédicateurs, des faux prédicateurs. Il dit donc qu'il est assuré que la situation va finalement se changer à salut pour lui. On va voir ce que ça veut dire, mais pour l'instant, il est convaincu que cette situation-là va l'amener, ou en tout cas, va tourner à son salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il est clair que par le contexte, il ne parle pas de l'état de son âme justifiée devant Dieu. Il ne parle pas de son salut spirituel dans ce sens-là. Le mot grec veut aussi, on peut le traduire de toutes sortes de façons. Une des façons qui est souvent traduite, c'est par délivrance. À cause de ça, il y a plusieurs personnes qui pensent que quand Paul dit que cette situation-là va changer à salut pour lui, il veut dire qu'il va sortir de prison, qu'il va être libéré de prison. Mais personnellement, je ne crois pas que c'est ça que Paul fait référence. Je vais vous dire pourquoi. Il me semble assez clair que Paul ne se préoccupe pas vraiment de savoir s'il va sortir de prison ou non. Comme on l'a vu au verset 20, ce qui le préoccupait, c'est de savoir que dans sa vie et dans sa mort, il va glorifier Christ. La question de sa mort, sa vie ou de prison, c'était secondaire pour lui, ça. C'était Christ magnifié. C'est ça qui le préoccupait. Donc, c'est ça son ultime passion. Donc, la chose la plus importante qui occupe ses pensées, tandis qu'il traverse les épreuves, c'est Christ, la gloire de Christ. C'est pour ça que je crois que le salut ou la délivrance dont Paul fait mention, c'est pas la délivrance de la prison, mais c'est plutôt la délivrance de la tentation ou l'épreuve de la tentation ou la délivrance de l'épreuve de pas magnifier Christ dans prison et devant César. Parce que c'est ça sa passion. C'est quelque chose que Christ s'est pensé, c'est il veut magnifier Christ. Puis en ce moment, dans ces difficultés-là, il a peut-être peur de ne pas magnifier Christ comme qu'il devrait. Puis c'est confirmé quand il ajoute, « Selon ma vive attente et mon espérance, que je ne serai confus en rien. » Paul, il se fout de sortir de prison de mourir. Ce qui le préoccupe, c'est de ne pas être confus en rien, c'est-à-dire de ne pas avoir honte, littéralement. Il ne veut pas avoir honte. C'est ça que ça veut dire, littéralement. La honte de quoi? La honte de ne pas magnifier Christ. Parce que c'est ça, sa passion. Donc, il a peur que ça n'arrive pas tout le temps. Il a besoin d'une assurance pour savoir que sa passion de magnifier Christ va être assouvie. Puis il a cette assurance-là. Il dit qu'il sait qu'il va être délivré de la tentation. Christ va être magnifié dans son corps ou par sa mort. Bien, dans son corps, soit par la vie ou par la mort. Puis il écrit que son attente est selon son espérance. Le mot espérance, encore une fois, nous, dans notre français québécois, on dit « Ah, j'espère que ça va arriver comme si ce ne serait pas sûr ». Mais en grec, c'est une assurance. Ça ne peut pas arriver. Mais cette conviction-là ne sort pas de nulle part. Si on lit tous les écrits de Paul, on se rend compte qu'il y avait une pleine assurance que Dieu est au contrôle d'absolument tout. D'absolument tout. Il écrit en Romains 8, 28, « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, c'est-à-dire autant la prison que la mort, toutes choses travaillent ensemble ou se mettent ensemble pour finalement apporter du bien à ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul, il sait qu'il n'y a rien de hasardeux dans sa vie. Il ne croit pas au hasard. Il sait que Dieu est souverain. Donc, il sait qu'en ce moment, il est exactement, oui, en prison, enchaîné avec un garde, puis peut-être qu'il va mourir. C'est exactement là que Dieu le voulait, à ce moment précis-là. Sa joie est donc au-dessus de tout, parce que sa passion du Christ est plus grande que tout, puis cette passion-là ne regarde pas aux circonstances, mais regarde au Dieu qui amène les circonstances. Cette joie-là s'appuie sur le Dieu qui amène les circonstances et non sur les circonstances. Les personnes qui possèdent cette passion-là voient les circonstances, autant les difficiles que les faciles, comme des situations différentes, emmenées par la main souveraine de Dieu qui va leur donner l'opportunité de glorifier Dieu et d'ainsi assouvir leur passion. En magnifiant le trésor de leur cœur. L'une des paroles de Charles Spurgeon qui m'a le plus influencé, c'est celle-là. La souveraineté de Dieu est l'oreiller sur lequel je pose ma tête la nuit. C'est ce qui apporte la joie à mon cœur, que Dieu domine dans les tempêtes de ma vie et les utilise pour un grand bien. Frères et sœurs, on a été rachetés par Dieu afin d'être passionnés pour sa gloire, pas pour avoir d'autres passions. On peut avoir d'autres petites passions, mais notre passion ultime devrait être toujours de glorifier Dieu. Puis notre réalité présente, c'est que notre nouveau cœur peut juste être satisfait et avoir de la joie quand elle magnifie Christ. C'est pour ça que quand vous péchez ou quand je pêche, on devient aussi triste. Parce que notre nouveau cœur ne veut pas ces choses-là. Elle veut magnifier Christ. C'est pour ça que, par exemple, aussi, pour le dire positivement, quand on annonce l'Évangile, c'est pour ça qu'on ressent une si grande joie. Et c'est pour ça que les gens ont pu être brûlés vifs en annonçant l'Évangile, en ressentant une joie qui était au-dessus des circonstances, parce que leur nouveau cœur voulait magnifier Christ, et c'est exactement ça qu'il est en train de faire dans une situation aussi difficile que le bûcher ou la mort. J'aurais aimé prendre davantage de temps pour expliquer d'autres choses dans le verset, mais je vais quand même mentionner certaines choses. On voit qu'il est écrit « J'aurai encore sujet de me réjouir, car je sais que cela tournera pour moi à salut ou à ma délivrance, grâce à vos supplications et au secours de l'Esprit de Jésus-Christ. » Même si Paul croyait à la totale souveraineté de Dieu, il croyait aussi que Dieu agit par des moyens, qui est dans notre texte, le support que les prières des frères et sœurs lui donnent, puis le support de l'Esprit Jésus-Christ. Si vous lisez les lettres de Paul, vous allez vous rendre compte assez rapidement que pour lui, il ne voulait pas vivre tout seul, puis affronter ses problèmes tout seul, puis régler ses choses tout seul. Constamment, il invite les églises à prier pour lui, pour que l'Évangile brille au travers de lui, pour que sa parole soit ouverte. Et constamment, il invite les frères. Il fait part de ses fardeaux, puis il invite les frères et sœurs à venir porter ces fardeaux-là avec eux, avec lui dans la prière. Puis moi, ça me touche quand je pense à ça, parce que ça m'humilie en même temps, parce que le grand et infatigable apôtre Paul, en face de la tentation puis de l'épreuve, demandait d'être soutenu dans la prière par ses frères et sœurs en Christ. Le grand apôtre Paul, lui qui est prêt à mourir pour Christ et pour les frères et sœurs, demande l'aide des frères et sœurs dans la prière. Je suis convaincu que beaucoup de nos luttes puis beaucoup de nos tentations seraient anéanties immédiatement ou dans les prochains temps si on avait l'humilité de Paul. Ça veut dire de demander de l'aide de nos frères et sœurs en prière. De faire ça, ce serait de s'assurer la victoire ainsi de s'assurer la joie qui est par-dessus tout. Parce que Dieu passe comme ça. Dieu utilise ces moyens-là pour... Oui, Dieu est souverain, mais Dieu utilise ces moyens-là dont surtout il aime utiliser la prière des frères et des sœurs. Donc, partageons nos fardeaux. De plus, Paul ajoute qui va aussi être délivré de l'épreuve par, pas juste les prières, mais l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, les frères et sœurs étaient avec lui dans la prière, mais le Seigneur aussi était constamment avec Paul dans cette difficulté-là. Paul n'a aucun doute que le Seigneur, pour lequel il est prêt à mourir, pour le magnifier, va lui procurer toute l'aide et le support nécessaire pour faire sa divine volonté. Il sait que l'Esprit du Seigneur est avec lui. Par l'Esprit Saint, Christ est en Paul pour le fortifier, pour le consoler, le faire tenir debout, puis lui donner toutes les paroles qu'il aura à dire devant César. Et cette certitude-là qu'il avait que Dieu n'allait pas le laisser seul et ne pas permettre qu'il soit couvert de honte dans sa passion, puis souvenez-vous que sa passion, ce n'est pas que les circonstances aillent bien, sa passion, c'était que Christ soit magnifié, peu importe les circonstances, mais il sait que Dieu qui allait soutenir là-dedans allait énormément solidifier sa foi. Parce que Dieu allait le soutenir dans ça. Et il allait voir Dieu le soutenir dans le fait que oui, je peux vivre pour Christ, être passionné pour Christ, et je vais voir Christ être magnifié dans ma vie. Dieu va m'aider là-dedans. Parce que c'est aussi sa passion à lui. Il ne faut jamais oublier que l'esprit qui était en Paul est le même esprit qui habite en nous aujourd'hui. Puis s'il a été avec Paul dans ses épreuves, réjouissons-nous, frères et sœurs, parce qu'il va être avec nous dans nos épreuves pour qu'on continue à magnifier Christ, si c'est vraiment ça notre passion. Si c'est vraiment ça notre passion. Pour conclure, oui, ce monde-là propose une joie et un certain bonheur, mais notre Dieu, frères et sœurs, veut nous voir marcher avec lui d'une joie qui surpasse absolument et complètement celle de ce monde-là. Une joie qui s'élève au-dessus de toutes nos circonstances. Et peut-être que ta joie est submergée par les vagues des circonstances difficiles de ta vie en ce moment. Regarde au Seigneur, crie vers lui, demande-lui, pas nécessairement de changer tes circonstances, tu peux lui demander, mais demande-lui aussi autre chose, qui rouvre tes yeux sur la valeur de sa personne. Dis-lui, ouvre mon cœur, Seigneur, afin que je te contemple. Ouvre mon cœur pour que ce soit toi ma passion, puis que ce soit toi ma passion dans toutes les circonstances. Il va te répondre, c'est sûr, parce que c'est son désir. Alors, tu vas voir ton cœur être rempli d'une passion nouvelle pour lui, puis tu vas être assuré de ceci, que ton Dieu fera en sorte que toutes les choses, même les plus difficiles, servent à assouvir cette passion-là que tu as maintenant, qui est de voir sa gloire divine éclater dans ta vie. Et ça, c'est la source d'une joie sûre, car Dieu magnifie toujours son grand nom. Et si ta passion, ce qui te procure de la joie, de la satisfaction, c'est de voir Dieu élevé dans ta vie, dans la vie de tes frères, de tes sœurs, dans la vie de l'Église, tu vas goûter une joie qui va surpasser absolument toutes les circonstances, parce que Dieu, à la fin, va avoir son nom glorifié. Dieu jamais va laisser tomber son nom. Attache ta passion à lui, puis tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous réjouisse par son esprit, frères et sœurs, on va prier. On va rendre gloire à notre Dieu. Seigneur mon Dieu, j'ai eu l'impression d'avoir une parole si petite pour exprimer des choses si grandes, encore une fois. Seigneur, mais ma confiance est en toi, que tu peux enseigner toi-même tes enfants et tes brebis à venir aux eaux intarissables de ta joie. Ce que je te demande, Seigneur, c'est de nous donner une passion pour toi et d'ouvrir nos yeux. Puis qu'on désire plus que tout ton nom, plus que les circonstances de ce monde, plus que la vie elle-même, pour l'éternité. Amen.